Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier podcast Elbacking.net. C'est une nouvelle expérience que nous tentons. Il y a quelques personnes qui sont autour de moi et qui vont se présenter les unes après les autres. Gilles Hossen, bonjour.
Bonjour à tous. Alors moi c'est Gilles Hossen, je suis l'un des fondateurs et webmasters historiques du site. Et au quotidien, eh bien, je me charge de la majorité des chroniques de romans, ainsi que des brèves d'actualité.
Mervyn Tonnel, bonjour.
Bonjour. Donc, je suis depuis récemment newser. Je fais quelques critiques, donc je commence juste. Et je suis un grand fan de Steven Erikson et de George Martin, fallait le dire, et de séries télé. Donc, j'attends Game of Thrones avec beaucoup d'impatience.
Giggs, bonjour.
Bonjour, alors moi je suis breveur depuis l'an dernier, c'est l'an dernier que j'ai rejoint la fameuse équipe d'Elbacking.net. Donc moi je suis fan également, comme mon collègue Mervyn, du Trône de Fer et de Brandon Sanderson que j'ai découvert cette année.
Akanabed, bonjour.
Bonjour, bon ben moi je suis le troisième petit nouveau du groupe. Donc avant tout je suis fan devant l'éternel de la Roue du Temps et défenseur des Lapins Blancs sur le forum. À côté de ça, je suis un des membres de la section jeux, donc où je fais des critiques et quelquefois, rarement, des news. Et je suis un forumer actif, comme on dit.
Et donc celle qui vient de présenter tout le monde et qui va servir de d'animatrice ou de candide, on ne sait pas trop pendant ce podcast, c'est moi, Witch. Je suis une forumeuse hyperactive, il paraît. Je ne suis pas petite, je ne suis pas blonde, je n'ai pas 14 ans. Et je suis, paraît-il aussi, la secte, la grande gourou d'une secte un peu connue sous le nom de Kushel. Voilà. Nous allons commencer ce premier podcast sous une forme un peu particulière pour ce premier opus qui sera de faire un bilan de l'année 2010 dans le domaine de la fantasy. Donc chacun pourra intervenir sur les différents sujets qui lui tiennent à cœur. Au niveau de ce bilan, on va commencer par la littérature, bien sûr, puisque c'est un des sujets principaux du site. Commençons par la littérature fantasy en France. Quelles ont été les sorties importantes pour l'année 2010?
Oui, donc alors au niveau des sorties importantes, on peut citer L'Empire Ultime de Brandon Sanderson, qui a été une des sorties les plus appréciées, on va dire, des lecteurs apparemment, dont le premier tome a été couronné par le prix Elbacking.net d'ailleurs, donc gage de qualité. on a aussi pu remarquer les intégrales du Trône de Fer chez J'ai lu aussi, qui ont c'est pas vraiment une nouveauté, mais elles ont su trouver leur public apparemment et attirer un certain nombre de nouveaux lecteurs.
C'est toujours agréable de trouver enfin une tomaison identique à celle de la version originale en France.
Avec des couvertures dignes de ce nom.
Faut dire que les 12 tomes pour 4 avant c'était un peu...
Oui, c'était un peu exagéré.
Non, c'est vrai que le découpage, c'est le mal. sinon, on a eu une année quand même assez chargée, donc je sais pas, on a eu notamment chez Mnemos un très beau livre sur Kadath, donc la cité inconnue de Lovecraft, donc vraiment un très bel objet, donc Guillaume, si tu veux...
Ah, j'ai trouvé que c'était une des meilleures initiatives de l'année qui est de la part d'un éditeur fantasy, en fait, donc avec cette... Ce beau livre, on a vraiment un produit complètement différent de ce qu'on a de ce qu'un amateur de fantasy a l'habitude de rencontrer. J'ai trouvé que c'est un marché de niche dans la niche. C'est un pari risqué de la part de Mnemos parce que c'est un travail qu'ils ont. On sent vraiment un gros travail de leur part. Il y a eu plusieurs auteurs qui ont travaillé dessus. Enfin. Et c'est un gros coup de cœur de ma part, une très très belle initiative.
Pour avoir croisé Laurent Pougeois hier au 7e rencontre de l'imaginaire de Sèvres, et pour avoir vu l'exposition qu'il y avait sur Kadath, c'est effectivement un très très beau travail. Après, moi je suis pas très fan du monde de Lovecraft, mais effectivement c'est vraiment très bien illustré, et c'est très original, et ça permet une entrée dans l'univers qui est assez, assez intéressante.
Et on sent que ce tome est un peu plus réfléchi aussi que celui de l'an dernier, Abîme, le guide de la cité des ombres, en fait, qui était dédié en fait à l'univers de Mathieu Gabory, les chroniques des crépusculaires.
Non, mais là, je t'arrête tout de suite, moi je suis super fan du monde de la conne, donc j'aime beaucoup cet homme.
Oui,
aussi.
Mais bon, Lovecraft est quand même, l'univers de Lovecraft est plus connu en fait que l'univers de Mathieu Gabory, et je pense que c'est une bonne idée d'avoir.
Je pense que ça s'adresse à deux publics vraiment différents. Le monde magique de Gabory est très 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 différent du monde de Lovecraft.
Oui, non, parce que Lovecraft c'est quand même assez à la mode en ce moment. On voit en particulier dans les BD pas mal de références à Lovecraft. Je pense que c'est pas si niche que ça, quoi. Le Lovecraft.
Je vais piquer le rôle de candidat Witch, mais c'est quoi le principe exactement de ce livre sur Kadath? C'est une aide pour le jeu de rôle? C'est une découverte de l'univers? C'est quoi?
C'est davantage une découverte de l'univers. Enfin, Gilosel me complétera, mais c'est tu as à la fois en fait un guide. Tu as toute une partie écrite et tu as énormément d'illustrations en fait. Comme si tu découvrais en fait vraiment
la ville comme une cartographie
à travers le destin de quatre personnages différents qui découvrent eux aussi la ville et qui nous la font découvrir en même temps.
Ouais, c'est une bonne introduction à l'univers pour les gens qui le connaissent pas du tout.
Tout à fait.
En dehors de ça, au cœur de l'Empire peut-être.
Oui, moi je suis grand fan de Kearney donc je dis oui. Donc c'était un grand retour de Paul Kearney dans la fantasy, enfin. Il n'en était pas parti, mais depuis les Monarchies Divines, il avait eu quelques soucis avec ses éditeurs. Donc il n'avait même pas pu finir une série qu'il avait commencée. Donc c'est agréable de le voir retourner sur une fantasy un peu originale, puisque ça se passe dans l'Antiquité, enfin dans une Antiquité fantasy, donc dans un monde totalement imaginé. Ça reprend donc l'anabase de Xénophon, si je ne me trompe pas. Et c'est très très proche de ce que peut faire Gemmell, donc c'est assez éloigné des Monarchies Divines, dans le sens où c'est pas plein d'intrigues comme on peut voir dans le Trône de Fer. Je sais que Gilosen n'a pas forcément apprécié, mais moi j'étais bien emballé, surtout dans la deuxième partie où l'action prend vraiment le pas, et donc on a toujours droit aux superbes batailles de l'auteur. Je trouve que c'est l'auteur qui décrit le mieux les batailles, donc moi je suis fan.
Bon, moi personnellement, j'ai bien apprécié le roman, mais c'est vrai que j'en attendais peut-être un peu plus, donc je suis un peu resté spectateur sans vraiment m'impliquer au niveau du destin des personnages. Mais après, le roman est plein de qualités, ça on peut pas le nier, notamment formel.
Bon, je suis peut-être la seule ici à avoir lu L'Héritier de Cushon déjà en VO, donc je vais être la seule à en parler, c'est ça.
Sûrement.
Bon, alors pour ceux qui ont suivi le gros succès de Jacqueline Carré avec la première trilogie dans l'univers de Cushon, Brajdon continue sur la lancée et publie a publié le premier tome de la deuxième trilogie. Bon, moi je trouve que c'est toujours de bonne qualité. Le point de vue est un petit peu différent puisque le héros qui raconte, puisque c'est à la première personne, est un homme, ce qui n'était pas le cas dans la première trilogie. Voilà, je ne vais pas le vendre plus que ça, mais c'est un très bon bouquin.
Non mais si, je l'ai lu. Hein. Puisque la critique est assurée par mes soins. Non, mais c'est vrai que ça change de perspective, et moi j'ai apprécié ce changement après 3 tomes, donc ça permet de repartir sous un angle différent, tout en retrouvant l'univers très particulier de l'auteur.
On a eu également la sortie des 100 000 royaumes de Jemisin, je sais pas si je le prononce très bien.
Pas d'idée sur la prononciation, c'est Jemisin, je pense.
Que personnellement je n'ai pas lu, donc je n'aurais pas d'avis dessus. Je savais que ça avait l'air assez attendu. Enfin, ça me paraissait être une des sorties assez ambitieuses aussi d'Orbit après Sanderson.
Bah moi, je pense que c'est une traduction intéressante. Enfin, d'avoir choisi ce bouquin à publier en français aussi rapidement après la sortie en VO, je pense que c'est vraiment un choix audacieux d'Orbit et une petite nouveauté. Après, que ça soit un énorme roman, certainement pas. C'est juste pour moi une vraie fraîcheur, une façon d'écrire un peu différente, un peu comme moi j'avais vécu avec Acacia. Je sais que tout le monde n'a pas forcément adhéré à Acacia, mais il y a une vision sur la fantasy qui est un petit peu différente et voilà, qui plaît et qui plaît pas. C'est pas dark, c'est pas épique non plus, enfin c'est très particulier. Pour moi, c'est le signe d'une nouvelle orientation. On en parlait dans la section jeunesse sur le site. une nouvelle orientation sur les choix de choses à la mode. Est-ce que ça sera les anges? Est-ce que ça sera les loups-garous? Est-ce que ça sera à nouveau les vampires? Moi, je crois que les dieux parmi les hommes, c'est vraiment une tendance fantasy qui est de plus en plus importante, et dans les 100 000 royaumes, c'est très présent.
Tu veux dire que ça joue un peu, en fait, sur des codes de la fantasy qui étaient un peu moins usités ces derniers temps?
Certainement. Enfin, moi, il y a des romans où le dieu est présent, mais en interaction avec un seul personnage, comme chez Eddings. Là, on est sur un dieu qui est au quotidien dans le présent, sur des dieux, pardon, qui sont au quotidien dans le présent de l'héroïne, et c'est assez plaisant. Un autre bouquin dont vous voudriez nous parler, qui vous a marqué cette année?
On passe peut-être. Ça semble un peu symptomatique de l'année, si personne n'a rien à dire.
Bon, c'est vrai qu'on a. Il y a eu beaucoup de lectures, une fois de plus, donc c'est vrai que les parutions étaient. De façon générale, on peut remarquer qu'il y a eu. On a l'impression qu'il y a toujours plus de parutions, donc c'est vrai que ça impose, en tout cas, ça impose un rythme de lecture soutenu, qui font que, bon, peut-être qu'on n'a pas le temps, finalement, de prendre le recul nécessaire pour apprécier certains livres, à part ceux qui nous frappent immédiatement et qui nous viennent à l'esprit tout de suite, mais...
Et puis c'est peut-être que, globalement, bon, le niveau de la production française se tasse un peu, enfin, il y a... beaucoup d'éditeurs publient aujourd'hui de la fantasy épique très classique, un peu typé Eddings, parce qu'on en parlait tout à l'heure, et peut-être que finalement on commence un peu à mettre de côté ce genre de roman dès qu'ils paraissent.
Et sans que le monde de la fantasy française ait vécu l'année des 10 ans, qu'est-ce qui a fêté son anniversaire cette année? En dehors de nous, en dehors des Maquis Poinet.
Ah bon, on peut noter les 10 ans de Bragelonne, les 10 ans de Folio SF, donc ça fait déjà un éditeur et une collection de poids, on va dire, dans le paysage. Donc c'est vrai que c'est une année assez marquée par les anniversaires de toutes sortes. Donc Geeks, je crois que tu étais notamment à la soirée des 10 ans de... Jeune.
Ah, j'y étais dans leurs nouveaux locaux, donc avec ma compatriote Alessia. Alors déjà, première chose qui frappe, c'est que les nouveaux locaux de Bragelonne sont vraiment très impressionnants. Je pense que c'était un peu à l'image de leur décennie, hein, qui les a vus grimper en flèche. On a eu un discours très poignant de Stéphane Marsan qui revenait un peu sur leurs péripéties. Et effectivement, qu'on soit d'accord ou pas avec la production de Bragelonne, Milady et aujourd'hui plus récemment Castelmore, on peut pas laisser de côté le fait que c'est l'éditeur qui au jour d'aujourd'hui s'en est le mieux sorti sur ce marché, à tel point qu'aujourd'hui c'est le 47e éditeur en termes de chiffre d'affaires selon le classement Livre Hebdo, avec pas loin de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires si ma mémoire est bonne. Donc oui, vraiment, quelque chose qui est quand même à saluer de leur part.
Ah bah c'est vraiment l'éditeur numéro 1 dans Fantasy, de toute façon, sans contestation possible.
Je pense même qu'il leur manque un vrai concurrent, et j'espère qu'Orbit va pouvoir se mettre sur le même créneau qu'eux et proposer des sorties aussi importantes en... Ce soit pas forcément en termes de qualité, mais au moins en nombre de livres parus.
Bah. Pour parler de quelqu'un qui est quand même dans le paysage depuis longtemps, Folio SF fêtait aussi ses 10 ans, et d'ailleurs, toujours hier, aux rencontres de l'imaginaire de Sèvres, il y avait une belle exposition de couverture qui, à moi, me marque personnellement, parce que après une longue, longue période de couverture sud-maquesque, non, c'est peut-être presque Pocket, Sud-Mac.
Ah oui,
c'est ça. Enfin bref, en tout cas, moi, la tranche argentée de...
Enlevez-la
continue à me marquer. C'est dommage parce que quand on regarde les couvertures, vous verrez peut-être une photo sur le site une fois que j'aurai pu rédiger une brève. Il y a des choix de couverture qui sont intéressants, avec des illustrateurs intéressants. Ce bandeau argenté.
Globalement, je trouve qu'au niveau des poches, il y a eu un vrai travail chez Gélu, chez Pocket et chez Folio pour des couvertures de qualité, des couvertures même parfois plus jolies que les éditions grand format. Mais enlever ce bandeau argenté et enlever la petite pastille fantasy qui sert à rien.
C'est ce que j'allais dire, la pastille fantasy, c'est pas forcément
le gage de qualité.
C'est la petite faute de goût qui vient trancher malencontreusement
Mais tant qu'elle sera pas en relief à la cire, vraiment. Bon, on constate aussi l'arrivée de nouveaux éditeurs après ceux qui ont fêté leurs 10 ans. Un petit point sur ce sujet.
Bah, déjà, on a eu Orbit, donc qui a fêté ses 1 an, qui est plus si nouveau en fait dans le paysage et qui effectivement, comme on en parlait tout à l'heure, on a vraiment l'impression que leur intention claire, c'est de se positionner face à Bragelonne. De mon point de vue personnel, c'est que pour moi, ils démarrent très bien. Ils ont un gros cheval de bataille avec Brandon Sanderson. Avec Elantris et puis avec la trilogie de l'Empire Ultime qui apparemment marche quand même plutôt bien chez eux. Ils sont soutenus aussi par des titres comme les 100 000 royaumes de Jemisin, qui est quelque chose d'un peu une fantaisie un peu différente. On a une grosse saga de dark fantasy avec J.V. Jones et l'épée des ondes, même si personnellement je n'accroche pas du tout, mais c'est mon point de vue personnel et totalement subjectif. Donc pour moi, un éditeur qui apporte vraiment quelque chose à ce marché de la fantasy en France, et à voir ce que ça donnera plus tard. Après, concernant les autres nouveaux éditeurs, donc cette année, donc pour venir sur la jeunesse, donc on a eu le nouveau label de Bragelonne, donc Castelmore, qui, fort de l'expérience de Bragelonne et de Milady, en fait, est arrivé directement avec quasiment 6 titres, maintenant 7, donc assez diversifié finalement, puisque ils ont sorti à la fois des titres de Bitlit, des titres de fantasy très classiques, donc je pense au Roi Démon de Cinda Williams, qui d'ailleurs est sorti chez Castelmore, mais aussi chez Bragelonne, avec deux couvertures différentes. On a un titre un peu plus dark fantasy avec le Prix de la Magie, de Kathleen Duet, que je connaissais pas du tout, dont d'ailleurs la couverture est une couverture de la version originale du Nom du Vent, qui a été réutilisée ici pour ce titre. Donc un éditeur qui s'attaque quand même à un gros marché, c'est le marché de la jeunesse fantasy fantastique et très très saturé à mon avis, Hachette est dessus avec des très gros titres, Twilight, etc. Et puis ses ersatz, 16 lunes, 17 lunes, etc.
Au moins ils savent compter les lunes.
Au moins c'est ça, on sait pas jusqu'à combien de lunes on montera.
Bon, en dehors de Castelmore, il y a aussi Eclipse, dont on a pas mal parlé sur le site.
Oui, au niveau d'Eclipse, moi je verrais plus Eclipse qu'Orbit en fait comme concurrent entre guillemets de Bragelonne, en tout cas au niveau du public visé, parce qu'on retrouve on va dire que Eclipse est arrivé quand même en force, avec des titres très différents, là aussi, de la bitlit, de la fantasy épique très classique, du zombie aussi, enfin un peu de tout. Et justement, j'ai trouvé que ils ont acheté également beaucoup de titres en amont, donc ils ont un rythme de parution beaucoup plus soutenu que Orbit finalement, où on a souvent que 1 ou 2 titres par mois, là c'est vraiment 5-6 titres d'office. Donc ça se rapproche pour moi beaucoup plus de Bragelonne. Et puis une politique de prix finalement assez agressive avec des titres qu'on retrouverait à 22 € chez d'autres éditeurs qu'on retrouve à 18 du fait de leur format intermédiaire entre poche et...
Le semi-poche.
Voilà. Exactement. Merci pour cette prédiction.
Désolé, c'est du jargon technique. Je ne le ferai plus.
Après, évidemment, c'est un débarquement, on va dire, réussi, parce qu'on a, je trouve que, ils ont su occuper le terrain, quoi. On les a beaucoup vus, on a entendu beaucoup parler. Bon, ils sont aussi très présents sur Facebook, ils ont lancé un blog officiel, enfin, vraiment, ils essayent vraiment d'occuper le terrain et de montrer qu'ils sont là eux aussi. Mais après, évidemment, ce qui fera la différence, c'est la qualité des titres, et j'avoue que pour le moment, je suis un peu... On en reparlera peut-être plus tard, mais je suis un peu mitigé. Sur l'ensemble, je les ai pas encore tous lus, notamment ceux qui ne sont pas fantasy, évidemment. Mais on va dire que sur l'ensemble, seuls 2 ou 3 titres me semblent vraiment en sortir du lot, comme Bone Shaker ou Un hiver de sang. Et les autres titres, je dois dire que c'est quand même beaucoup plus mitigé. Donc je sais pas, on va voir s'ils arrivent à trouver eux aussi une vraie locomotive au-delà du lancement même. Mais pour l'instant, je suis quand même assez réservé. On va voir sur 2011, parce qu'évidemment là on juge sur 2 mois, donc on peut pas juger vraiment avec pertinence, on va dire. Mais
est-ce qu'on peut dire que les lecteurs fantasy, de toute façon, ils gagnent 3, c'est mieux qu'un?
Ah, ça, c'est peut-être parler un peu vite, parce que pour moi, le lecteur fantasy gagne quand il y a de la qualité, c'est sûr, pas quand il y a de la quantité, mais bon, c'est un peu tôt pour dire ça sur Eclipse, mais je voulais juste souligner qu'il y a un auteur français, il me semble, donc Oliver Perru, qui est paru donc chez Eclipse, donc j'espère qu'ils continueront à publier de la fantasy française, parce que Bragelonne en manque un peu.
Et Orbit aussi.
Donc votre bilan de l'année, comment vous avez vécu cette année au niveau des parutions littéraires? Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre particulièrement en avant?
Moi, j'ai pas été particulièrement marqué par cette année. Je suis même plutôt dans l'attente de l'année prochaine, donc on en reparlera un peu plus tard. Pas de parution très marquante, puisque j'ai même pas beaucoup apprécié Fils des Brumes, donc tapez-moi si vous voulez, mais je n'ai pas beaucoup apprécié. J'ai dû me tourner vers de la VO pour trouver peut-être des choses beaucoup plus marquantes, mais...
Alors du coup, avant de parler du bilan de tout le monde, excuse-moi Merwin, mais si on parlait de la fantasy, les actualités, enfin le bilan de la fantasy à l'étranger, puisqu'on n'a pas parlé de The World of the Night.
Bah oui, par exemple hein.
Alors Raka, tu peux nous en parler?
Ah ben oui, ça bien sûr, je peux vous en parler, je vais essayer de faire pas trop long quand même.
Sans spoiler.
Et sans spoiler en plus. Bon, en gros, le sentiment, j'ai l'impression qu'il en ressort, c'est que ça fait un peu deuxième tome d'une trilogie. C'est-à-dire que, Brandon Sanderson a repris donc la roue du temps avec The Gathering Storm, donc le précédent. Là, il y a eu une grosse attente parce que la communauté fan... savais pas trop ce que ça donnerait, etc. C'était un peu rude. Ça s'est très bien passé.
Pour ceux qui ignoreraient totalement ce qu'est The Wars of Midnight, il s'agit du 12e tome,
13e
tome de La Roue du Temps, un cycle connu et écrit par Robert Jordan, qui est décédé avant de l'avoir terminé.
Bon, le cycle majeur de la fantasy...
Non, personne ne peut dire ça, personne ne peut dire ça.
Peut-être utile de
penser... Majeur après Le Trône de Fer, après Erickson, après... Bon. Passons.
Peut-être utile de préciser que c'est le 13e tome en version originale, parce qu'en version française, on doit en être au tome 50, ou j'exagère à peine, mais...
En gros, c'est 2 pour 1, donc ça fait que 26.
Uniquement 26.
Donc, ce que je disais, c'est que ça fait un peu syndrome deuxième tome d'une trilogie, c'est-à-dire que le premier tome, au final, a été très bien accueilli, les fans étaient contents, etc. Et ce tome-là a un petit côté... mise en place pour le dernier tome. C'est-à-dire que forcément, une série en 14 tomes, avec une fin qui est attendue, quoi, qui est annoncée depuis le premier tome, on sait ce qui va se passer dans le dernier tome. On sait pas comment ça va se terminer, mais y a la bataille finale, il faut la préparer, quoi.
Et j'ai envie de dire que t'apportes un peu d'eau au moulin de ceux qui disent que ça a été du remplissage au milieu. c'est pas mon avis, hein, mais...
C'est pas du remplissage. Mais en effet, là, c'est vraiment un tome. Alors, on finit un certain nombre de storylines qui avaient leur importance dans les précédents tomes. Et en gros, on regroupe tout au centre en attente du dernier tome. Quoi.
De la bataille finale.
Voilà, ça va être ça.
C'est un tome de transition.
Ça a un petit peu ce côté-là. Alors, c'est pas vraiment ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses. Typiquement, il y a beaucoup de storyline qui se termine, de révélations bien faites ou pas qui arrivent dans ce tome.
C'est l'introduction à la conclusion.
C'est un peu l'introduction à la conclusion. Donc ensuite, bon, d'un point de vue global, le ton est quand même moins sombre que le précédent tome. La bataille finale approche, ça on le sent de plus en plus. C'est de pire en pire pour la Terre, etc. Quoi, la Terre Randland, quoi. Mais il y a une petite lueur d'espoir qu'il n'y avait pas forcément dans le précédent tome. Donc
Ça... Tu veux dire que ça pourrait bien se terminer? Oh là là! Oui, non. Et non. Le grand méchant pourrait mourir?
Oui et non, parce que ça...
Spoiler!
Et il y a une autre question qui se pose, c'est que même dans le cas d'une victoire finale, qu'est-ce qui se passe après? Et ça, c'est assez intéressant, je trouve, comme questionnement. Et il y a une des meilleures scènes de toute la série, je trouve, qui est un peu sur ce ton-là, et qui vraiment est vraiment, vraiment super. Donc, bon, on passe un peu sur quelques passages longuets, comme d'habitude. Oui, c'est sûr, il y en a la storyline de Perrin qui se termine enfin. Et encore quelques petits passages un peu longuets. Mais bon, ça s'accélère un petit peu et ça se termine, je trouve, en beauté quand même. Donc ça, c'est agréable. Bon, on passe aussi sur les réprouvés qui, là, on va arrêter tout de suite. Disons que, comme souvent les grands méchants, j'ai envie de dire, ils sont très très bien tant qu'on les voit pas, et quand on les voit d'un peu trop près, bah, ils ont du mal à faire quelque chose d'efficace, quoi. Donc voilà, donc je repars, ouais, il y a quelques scènes qui sont vraiment, vraiment géniales, qui pour ça, rien que pour ces scènes-là, ça vaut le coup de lire le bouquin, que, ouais, vraiment une des scènes qui m'a le plus marqué dans tout ce que j'ai lu. Il y a une révélation, genre la question qu'on se pose dans ce bouquin qui tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe.
Qui a tué Roger Rabbit, c'est ça?
C'est ça. Donc, qui veut sa peau?
Zeb, tu veux dire ça?
C'est ça. voilà, et puis, bon, juste dans mes notes, ma dernière petite note, c'est quand même Nina Eve Rocks Grave, parce que...
Nina Eve étant le nom d'un personnage féminin.
Voilà, c'est mon personnage féminin préféré, et à chaque fois, on la voit pas forcément beaucoup, mais quand on la voit, c'est bien. Et elle se tire pas trop sur les cheveux, mais rien.
Sur sa natte.
Sur sa natte.
Merci.
Ben, je t'en prie.
Et en dehors de donc ce livre important, quels sont pour vous les courants actuels qu'on a pu constater sur cette année, les courants actuels en fantasy qui viennent de l'étranger pour l'instant, hein, puisqu'on est en fantasy à l'étranger?
Ben moi, j'ai l'impression quand même que un courant actuel qui sort quand même énormément, que ce soit maintenant en France ou à l'étranger, ben c'est Brandon Sanderson quand même. Désolé de dire ça, mais c'est vrai que on en parle beaucoup. Il est très présent, il sort plusieurs livres par an.
Ouais, c'est impressionnant.
C'est une vraie machine.
Il a publié sa liste de projets entre les suites, les trilogies. Il a C'est hallucinant, ouais, c'est impressionnant.
Non, la vraie machine, d'après ceux qui étaient aux Utopiales, c'est Shanami et Léna, mais bon.
On parle de muscles.
Bon, donc, pas de... Je parlais, en dehors de cet intérêt et de cette importance de Sanderson, je parlais des courants dans le contenu.
Puisqu'on parlait des Utopiales, j'ai eu la chance de rencontrer Scott Westerfeld, enfin de le rencontrer, de voir une de ses conférences, et c'est intéressant tout ce qu'il a à dire sur le steampunk là, donc qui commence à surgir. Donc il y a eu Bone Shaker chez Eclipse, et puis Westerfeld a publié Léviathan. Il y a de belles choses à voir aussi dans ce côté-là. Peut-être quelqu'un a des mots à dire dessus.
Ce que je peux dire sur Léviathan, personnellement je l'ai pas lu, mais quand on voit les critiques dithyrambiques sur le forum et celle de notre compatriote Alessia qui lui a mis quand même un 9 sur 10 et qui a été très très emballée, moi j'ai quasiment jamais lu de steampunk, et je dois dire que c'est un... Je suis très tenté par ce livre parce que d'abord il y a des illustrations qui sont magnifiques. Et je trouve que le postulat de départ de faire une uchronie sur la Première Guerre mondiale en ajoutant en fait une réalité modifiée avec les darwinistes d'un côté, des gens qui utilisent le tout biologique et des gens qui ont une technologie tout mécanique, je trouve que c'est un postulat de départ qui est vraiment intéressant. Qui est vraiment magnifié par des illustrations qui sont à tomber, je trouve. Je connaissais Westerfeld surtout pour Uglies, que je n'avais pas du tout envie de lire, mais je pense que je vais réviser mon jugement cette année.
C'est vrai que le steampunk a l'air de vraiment revenir à la mode, et je crois qu'il y a eu un mois steampunk sur Thor Books, Donc Thor étant l'éditeur américain de fantasy le plus important, donc l'éditeur le plus important au monde du coup, vu l'importance du marché là-bas. Et oui, c'est un genre qui, à mon avis, est à surveiller, parce que périodiquement, forcément, les effets de mode, ça va, ça vient. Mais là, depuis quelques mois, je pense qu'il va falloir surveiller ça de près.
On a un bon représentant de ce que moi je classe aussi dans le steampunk, alors je me trompe peut-être, vous me direz, mais toujours hier, il y avait une exposition de Camille Roversade, dont on a déjà parlé sur le site elbagging.net, qui présente un cabinet de curiosité. Donc pour moi, c'est un peu dans cet état d'esprit, ce côté entre le mécanique et l'industriel, le biologique, les choses qui existent ou qui n'existent pas, les uchronies, les réalités un peu parallèles. C'était assez intéressant. Il est très investi dans ce qu'il présente, puisqu'il dédicace déguisé en explorateur un peu période victorienne. Il a des tampons pour tamponner les pages des bouquins qu'il dédicace. C'est assez rigolo. Il est vraiment investi dans ce qu'il fait. C'est très plaisant. La bit-lite, on confirme, on confirme pas, on continue à en parler, on n'en parle pas.
La bit-lite, ben, ça semble marcher, donc c'est pas nouveau, c'est pas nouveau de cette année, on va dire. Mais je pense que elle a encore de beaux jours devant elle. Chacun s'en plaindra ou s'en réjouira.
Si on s'en réfère, en tout cas, au tout ce qui est classement sur Amazon, sur Fnac.com, quand on voit que les meilleures ventes, enfin souvent, qui trônent dans les meilleures ventes, c'est quasiment tous les tomes de la communauté du Sud de Charlène Harris, effectivement, on peut se dire que la bit-lite a quand même vraiment encore un bon coup à jouer en 2011. Alors malheureusement pour, enfin de mon point de vue personnel, la production est assez faible. Enfin je trouve que de qualité assez médiocre. Les histoires sont toujours un peu la même chose. Il y a très très peu de renouvellement en fait. Je trouve dans ce sous-genre.
Bah juste pour symptomatique de ce manque de renouvellement. Bon, c'est pas littéraire, mais ils avaient annoncé un remake de Buffy contre les vampires, donc on repart vraiment tout au début.
On repartirait encore.
On va faire un nouveau film, donc ça, on dira pas ce qu'on en pense vraiment, parce que Buffy c'est quand même quelque chose auquel on n'a pas trop droit de toucher, mais bon.
Et je continuerai sur donc une prochaine sortie de Castelmore, dont ils ont commencé à faire la pub au Salon de Montreuil, c'est Monster High. Donc là, ce serait vraiment complètement de la bit-lite avec un collège, un lycée des pom-pom girl vampires sortiraient avec
l'équipe de foot,
Gorgone ou loup-garou. c'est une à noter que c'est une licence qui appartient à Mattel. Donc c'est vraiment de la très très grosse machine derrière. Ils ont fait un clip qui a été vu plus d'un million de fois déjà. Enfin, c'est quelque chose qui là-bas marche très bien.
Là, pour le coup, on est vraiment dans le produit dérivé, quoi. C'est le cas.
Ah là, pour le coup, oui, c'est clairement la licence du produit dérivé qui surfe sur un sous-genre qui fonctionne.
La littérature dérivée, quoi.
La littérature dérivée. Oui, et donc je vous encourage tous à aller voir ce fameux clip où moitié réalité, moitié dessin animé, parce que pour savoir si je suis le seul quand à trouver les personnages faits en dessin animé ressemblant aux poupées Bratz.
C'est un produit dérivé. J'ai cru que ça
allait être G.I. Joe contre Sus Barbie Vampire, enfin, mais non, finalement pas.
C'est des Bratz, Dracula, zombies, vampires, tout ce dont on peut rêver ou pas.
Noël approche.
Et bien justement, est-ce qu'on peut faire maintenant un vrai bilan général pour chacun d'entre vous, avec peut-être en commençant par la version chiffrée de ce qui s'est passé sur le site au niveau des critiques littéraires?
Oui, voilà, donc les notes, on va dire qu'on en pense qu'on voudra, donc elles sont forcément subjectives, puisque tout dépend de chaque chroniqueur. Mais on a tenu à commencer ce bilan par un bilan chiffré, justement, qui fait la moyenne des notes des parutions de l'année, éditeur par éditeur.
On pourrait également préciser que tous les éditeurs du marché ne sont pas forcément représentés. Par exemple, si on se retrouve avec seulement deux romans critiqués dans l'année, faire une moyenne sur deux notes, je ne sais pas si ce serait forcément très pertinent. Donc, commençons notre bilan chiffré par ordre alphabétique avec l'Atalante. Une année, ma foi, assez intéressante, avec notamment toujours du Pratchett, dont Nation, en one-shot, ou Les Magiciens fin août, une parution que j'ai beaucoup appréciée personnellement. Et on se retrouve donc avec une moyenne de 7,56 pour l'Atalante, ce qui n'est pas mal du tout. On le verra notamment comparé aux autres éditeurs. Et d'ailleurs, justement, après le A vient le B, et donc Brajlon. Donc Geeks, je te laisse la parole.
C'est le leader, c'est celui qui a sorti le plus de titres en 2010. Donc on a environ 75 titres de paru. Donc on a référencé, enfin 72 titres exactement référencés sur le site, environ 54-55 titres fantasy, donc c'est les trois quarts du catalogue de Brajlon sont de la fantasy, et donc avec toutes les notes additionnées, on a une moyenne pour Brajlon de 7,17 sur 10. Personnellement, j'ai trouvé que ça illustrait parfaitement le type de production de Brajlon, une qualité qui est souvent moyenne, que ce soit au niveau de l'histoire, que ce soit même parfois au niveau de la traduction et des coquilles qui peuvent rester à l'intérieur. Pas de ce que j'ai pu noter chez Brajlon, on a très très peu de titres à retenir cette année. On a les psaumes d'Isaac de Ken Scholes, qui faisait partie des nominés de notre cher prix Albakin.net. Votez pour lui. On a donc la trilogie de Prince Dragon, un classique donc de Melanie Round. C'est très très bien, c'est une très bonne initiative que Brajlon l'ait réédité.
Et que ceux qui attendaient la fin aient pu enfin la voir, puisque il me semble que la Reine Blanche s'était arrêtée.
Exactement.
La Reine Noire. Je préfère les blanches.
Et donc j'ai noté également donc quelques titres, bien entendu j'ai noté les Jacqueline Carré pour ne pas me faire fouetter par Witch, du K.G. Parker, Rien que l'acier de Richard Morgan, et bien entendu toujours les anthologies de Ward qui sont très très bien faites, que j'encourage tout le monde à jeter un œil dessus parce que c'est un vrai travail d'éditeur.
Il faut aussi saluer le travail de Patrice Rouinet justement.
Tout à fait.
À ce niveau.
Tout à fait.
Très impliqué, évidemment, vu que c'est lui qui supervise tout, et voire qui traduit, d'ailleurs.
On a vraiment un gros, gros travail à ce niveau-là, et c'est très bien de ressortir Howard là-dessus. On a aussi, également, chez Brajlon, beaucoup de titres à oublier. Hein. On passera rapidement sur l'avant-dernier tome de l'Épée de Vérité, encore et toujours du Raymond Feist, encore et toujours du Terry Brooks...
eux, ils ont aucune raison de l'oublier, hein. Ça trouve son
ça
public.
Ça se vend très bien, ça trouve son public. Mais c'est vrai qu'après, je parle toujours de mon point de vue personnel qui est très subjectif, hein. Je tiens à le répéter. Au niveau de la qualité, je trouve personnellement que personnellement, c'est pas ça, hein. Enfin, le Rachel Mead avec sa série des Succubus, personnellement, j'accroche pas non plus. Enfin, voilà pour moi,
En gros, un bilan, ce qui est bien, mais pas top, quoi.
C'est bien, mais pas top.
Je dirais plutôt, il y a un peu de bien et beaucoup de moins bien.
D'accord.
Alors, pour enchaîner, on va suivre donc par ordre alphabétique, hein, tant qu'à faire. Alors, passons à Eclipse, donc avec une moyenne de 6,7. Bon, sur 10, hein, bien sûr, avec 3, 4, 5, 7 titres critiqués. Donc c'est ce que je disais précédemment, donc il faudra voir sur la durée, mais pour le moment, en dehors d'Un hiver de sang, Bone Shaker et Druid, d'Oliver Perru, donc justement, l'auteur français, le reste, j'avoue que j'ai vraiment pas été convaincu, notamment pour tous les titres plus ou moins bitlit de l'éditeur.
Oui, la bitlit tire vers le bas, quoi.
Mais est-ce qu'il y avait des auteurs... qui avaient un peu de notoriété dans leur catalogue, ou alors c'était pour la plupart des inconnus.
Ben, par exemple, tu peux voir Brian Ruckley, donc pour Un hiver de sang, on peut pas vraiment dire que ce soit un inconnu. Après, de là à dire qu'il était très attendu par les lecteurs français, on peut pas dire non plus.
C'est ça que je voulais savoir.
Donc, je pense pas que là, dans leur catalogue, pour l'instant, ils aient un auteur que les fans de fantasy mouraient d'envie de découvrir en VF.
Oui, ils prennent des risques, donc, en fait. Hein.
Ouais, c'est une grosse prise de risque, je trouve, de leur part.
Ils devraient acheter Ericsson.
S'ils sont courageux, ils peuvent tenter le coup, effectivement. Donc ensuite, nous avons Fleuve Noir, Donc avec une moyenne de 7,75 sur 10. Donc je le dis tout de suite, c'est la meilleure moyenne, hein, je ne suis pour rien. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 titres critiqués. J'ai fait une moyenne pour La Roue du Temps, je précise. Et puis ensuite, nous passons à, par ordre alphabétique, Mnemos. Donc, alors, Alex, je te rends la parole.
Alors, merci, Gilles-Ossène. Donc, Mnemos, donc, cette année, on a donc environ 25 titres de publiés. Donc, c'est, pour un ordre d'idée, c'est quasiment 3 fois moins que Bragelonne. On a pas mal de titres de fantasy, puisqu'on en a environ 18. Et on a une moyenne de 7,4 sur 10. Donc une production de qualité globale, j'ai envie de dire pas trop mauvaise, mais
quoi, très bonne non plus.
On pourrait s'attendre à mieux, effectivement. On a, j'ai noté beaucoup de rééditions, donc notamment les Michel Robert, le Renégat de David Gemmell en début d'année, la réédition des Chroniques des Crépusculaires aussi en intégrale. Qui prennent quand même un tiers des sorties fantasy de l'éditeur.
Un prix Elbakin Poinette, quand même.
Un prix Elbakin Poinette, c'est à souligner, donc Citeriae de Charlotte Bousquet, donc qui a su convaincre le jury du site. Donc moi je répète ce que j'ai dit au début, j'aime beaucoup leur tentative de s'immiscer sur un autre type de marché. Une niche dans la niche avec les beaux livres, le beau livre sur Cadas, qui est vraiment un coup de cœur de cette année 2010. C'est une très très belle initiative de la part de Mnemos, je trouve. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu symptomatique de chez eux, c'est que je pense qu'ils ont toujours du mal, en fait, au niveau des ventes, ça, je pense que ça suit pas, à mon avis.
Il manque d'un titre fort, en fait.
Effectivement, il manque. Je suis d'accord avec toi. Il manque un gros cheval de bataille. Ils avaient Michel Robert avec l'agent des ombres qu'ils ont réédité cette année. Ils avaient Le Secret de J, donc qui demeure leur best-seller depuis sa parution en 96, je crois. Donc ça manque quand même effectivement d'une grosse locomotive, d'un auteur un peu
Erickson, quoi.
Erickson. Voilà.
Mais on peut aussi souligner qu'ils ont réédité du Taniki.
Ils ont réédité, ah oui, le dit de la Terre plate, effectivement. Mais alors je me demande pour le coup si c'était pas un titre un peu compliqué, un peu difficile à aborder pour le public français. Déjà d'une part, les deux tomes sont énormes, j'ai trouvé, de mémoire. Stanis Lee, est-ce que c'est finalement quelque chose que les lecteurs français attendaient?
En tout cas, c'est une œuvre importante, on peut saluer leur...
C'est une œuvre importante, effectivement. Il y a quand même de belles initiatives chez Nemo, c'est à garder en mémoire.
Oui, parce que moi je trouve ça intéressant que l'historique, les parutions un peu historiques d'auteurs qui sont les piliers de la fantasy, oui, comme Lovecraft ou comme Howard, ça soit pas réservé que à Lovecraft ou à Howard, justement, qui est des éditeurs qui décident qu'il y a d'autres auteurs qui sont aussi piliers et qu'ils ont... Enfin, moi, je trouve que lire du Anne McCaffrey, ça me paraît aussi important, et du Tanit Lee, ça me paraît aussi important que d'avoir lu du Lovecraft ou du Howard, quoi. Du Tolkien. Tout le monde a l'air de placer Tolkien au-dessus de tout, donc... N'y touchons pas.
Ah, j'aime beaucoup Anne McCaffrey, donc je suis d'accord avec toi. Et oui. D'ailleurs, je trouve assez dommage la réédition chez Fleuve Noir directement
Chez Pocket.
Chez Pocket, pardon. Qui sont des intégrales qui regroupent à chaque fois uniquement 3 tomes et qui me perdent encore plus dans l'ordre, en fait.
Vaste sujet.
On va y consacrer un podcast entier, tu vois. Je sais pas si c'est vraiment le moment.
C'est vrai.
Pour poursuivre donc le bilan chiffré, on passe maintenant au Pré au Clair. Si on peut pas dire que ce soit une très grande année pour l'éditeur, puisque en dehors d'un Téméraire qui s'en était bien sorti, avec un 7,5 sur 10, on se retrouve avec une moyenne de 6,8. Donc le Pré au Clair fait un peu partie des mauvais élèves, on va dire, avec les débuts d'Eclipse. On se poursuit maintenant avec Pygmalion. Donc là, Pygmalion 7,6. Donc c'est assez, c'est dans la moyenne haute pour le coup. Bon, par contre, il faut remarquer que Pygmalion est quand même vraiment très porté par les Robin Hobb, soit le soldat chaman ou la cité des anciens. Parce que si on les enlevait, forcément, d'un coup, la note, la moyenne baisserait.
Si on enlève la cité des anciens, ça enlève déjà 10 tomes découpés.
C'est le soldat chaman, il n'y a eu 15 cette année, donc.
Il faut quand même préciser que Robin Hobb, c'est la meilleure vente fantasy chaque année en France. Enfin, c'est celle. Ces ouvrages en fait sont du fond, c'est-à-dire que ça se vend tout le temps, toute l'année en librairie. L'Assassin Royal, Les Aventuriers de la Mer font toujours partie du top des ventes.
Je ne suis pas baïonnée à ce moment-là de la discussion, j'ai décidé de ne pas en parler.
On précise que Witch est une grande fan de l'Assassin Royal et que Fitz Chevalerie est l'un de ses personnages préférés.
De toute façon, concernant Pygmalion justement et Robin Hobb, on a pu voir que pour la Cité des Anciens, il y avait eu quand même une offensive marketing assez importante, puisqu'il y a même eu des affiches dans le métro.
Quel dommage d'avoir mis des affiches dans le métro de cette couverture
hideuse, tu peux le dire.
J'allais dire sujette à polémique, mais on peut dire hideuse. C'est...
Tout ça était donc très subjectif, hein, bien sûr, chacun.
Oui, bien sûr. Et donc on peut conclure ce petit tour d'horizon rapide au niveau des notes avec Orbit, qui tutoie là aussi l'excellence, on va dire, avec 7,68 sur 10, c'est précis. Donc là, évidemment, on peut distinguer les deux tomes de Fils des Brumes, ou...
Là aussi, encore un prix El Bakin Poney.
Bien sûr, pour le premier tome, ou Les 100 000 Royaumes, avec un joli 8 sur 10, et puis des titres un peu plus, dans la moyenne, on va dire, un peu plus classiques, et donc qui se distinguent moins, comme Le Royaume Empoisonné, ou...
Denis Valentine,
c'était très sympathique.
Ou 10 000 au cœur de l'Empire.
Qui n'est pas la suite de 300.
Mais voilà pour le petit tour d'horizon chiffré, on va dire.
Bien. On a fait le tour de la littérature. On peut passer à quelque chose d'un petit peu plus visuel, enfin, plus mouvant en tout cas. Quelle a été votre année cinéma, télé, on va essayer de lister les films un petit peu un par un, ceux qui vous ont semblé intéressants. Prince of Persia?
Non.
Non, ok.
Non, un autre.
Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. J'ai vu producteur Jerry Bruckheimer, j'ai fait non. Bon, c'est de la mauvaise foi, mais...
Ah oui, carrément.
Oui,
je te soutiens.
Non, je suis un grand fan des Sables du Temps, le jeu, donc j'ai pas voulu m'aventurer sur une production Bruckheimer de
cette œuvre. C'est peut-être ça la question pour moi. Ouais. Je ne suis pas du tout fan du jeu, donc...
Moi, personnellement, je l'ai vu. J'ai trouvé que c'était un honnête divertissement, on va dire. Et surtout par rapport aux Pirates des Caraïbes, il fait une bonne demi-heure de moins, donc... C'est déjà un gros progrès au niveau du rythme.
Moi, je l'ai vu en anglais sans sous-titres à une période où je comprenais pas encore trop l'anglais. Bon, je peux dire que c'est pas gênant du tout. On comprend quand même l'histoire.
Enfin, c'est d'action, dire, pas de dialogue.
C'est dire, hein, donc le scénario, oui, tient sur sur une feuille de papier toilette, hein, c'est à peu près.
J'aurais pu dire à cigarette.
Une feuille de papier à cigarette, je n'avais pas de terme dans
la loi E20 nous interdit.
Un ticket métro.
Sur un ticket de métro, ouais, c'est clairement ça. C'est une grosse déception pour moi. Bon, j'en attendais pas énormément. Il n'y a pas grand chose à dire.
Ouais, alors, moi, je suis juste pas d'accord avec vous sur un film d'action fantasy qui est bien fait, bien réalisé et qui va vite et qui prend pas la tête. Voilà, ça, c'est exactement le genre de film. Il y a pas de. Alors évidemment, on n'est pas dans la super réflexion, hein, mais je crois pas que ça soit le but du jeu.
C'est ça, quelque part, c'était affiché comme étant un film d'action fantasy et puis voilà.
C'est aussi un jeu d'action. Enfin, c'est pas un jeu de réflexion. On ne demande pas de résoudre l'énigme et de soulever la pierre qui est la troisième après la statue.
T'as vu le regard de Meroïne?
Non, mais voilà, je veux dire, tout d'un coup, ne disons pas que le Prince of Persia à la base, c'est le jeu qui va révolutionner. C'est pas Myst, quoi.
Il y a derrière le jeu, il y a une certaine ambiance. Il y a un scénario, là aussi on peut polémiquer, mais il y a quand même une ambiance que moi j'ai pas retrouvé dans ce que proposait la bande-annonce, parce que j'ai pas vu le film, mais ça m'a déçu de voir une production aussi américanisée sur un produit qui est quand même plus oriental.
d'accord.
Dans sa conception.
Je comprends le, je comprends la déception par rapport à un jeu. Moi, comme j'ai pas cette attente-là, effectivement, peut-être que c'est plus facile.
Je dirais même un scénario hollywoodisé, parce que bon, de ce que je connais du jeu, c'est-à-dire le, un peu l'épisode 2, qui était sorti sur GameCube, on avait quand même un scénario un peu plus sombre. Que là, bon, ça reste très...
Bon, pour le coup, c'est l'adaptation du, enfin, de, des Sables du Temps qui est beaucoup moins sombre que
L'âme du guerrier.
Ouais, c'est ça.
D'accord.
Bon, pas convaincu par Prince of Persia, alors passons à un truc où je suis sûr que tout le monde est convaincu, sinon je vais commencer à frapper. Dragon.
Ouais.
Dragon, c'est bien.
Je pense que c'est une des bonnes surprises de l'année. Ouais, personnellement, peut-être moins marqué que Witch par le film, j'avais juste trouvé très sympathique. Pas forcément original, mais... Il y a un coefficient de sympathie, on s'attache vraiment au personnage.
Une animation quand même hyper bien faite, très jolie.
Juste une petite peut-être réserve sur le design des dragons que j'ai trouvé quand même un petit peu neuneux, on va dire. Et peut-être un petit manque d'humour aussi, c'est finalement pas... Enfin, c'est sympathique, mais ça manque d'humour, on va dire, un peu plus adulte, ou d'une deuxième lecture, on va dire, au niveau d'humour.
Bon, c'est pour moi, clairement, un film pour enfants, quoi. C'est, oui, c'est... Il n'y a pas un humour entre guillemets à la Shrek ou.
Ouais, moi je m'attendais plus à une production de genre.
Mais alors pour.
Il n'y a pas de double niveau.
Voilà, il n'y a pas de double niveau.
D'accord.
Mais alors je trouve que dans le cas, l'humour est clair à prendre au premier degré, etc. Mais ça, moi je trouve ça très bien marché.
Enfin, moi sur le design, j'ai. Alors effectivement, le dragon principal est plus un chat qu'un dragon, on est bien d'accord. Il lui manque juste les oreilles. Mais bon, et encore, il les a. Mais en dehors de ça, moi, il y a les scènes de vol, pour moi, elles étaient aussi. Elles fonctionnaient aussi bien que celles d'Avatar, quoi. Il y avait un truc très fort sur le vécu, l'immersion dans le dragon en train de voler et le petit garçon, le petit Hiccup sur le dos. Il s'appelle pas Hiccup en français.
Hiccup Harold en français.
Mais, voilà, c'est pour moi un bon moment. Je pense que sur le forum, il y a eu pas mal de réactions de parents forumeurs qui étaient agréablement surpris en ayant emmené leurs enfants pour leur faire plaisir et en ayant eux aussi passé un bon moment. Moi, je trouve que c'est vraiment là pour le coup une adaptation des livres. Du coup, j'ai feuilleté les tomes puisque c'est How to Train Your Dragon, comment entraîner votre dragon. Ouais. Et c'est vraiment là peut-être le signe que quand il y a une série qui marche bien, qui est intelligente, qui est drôle, si le scénario s'en éloigne pas trop, ça peut donner une bonne adaptation. Moi, j'ai pas trop de craintes. Il y a eu cette discussion aussi sur le forum. J'ai pas trop de craintes sur les suites, quoi. Je peux espérer que ça sera.
Faut voir après si on n'a pas 6 ou 7, parce que oui. Des suites. Là, je veux bien. Mais en fait, pour le comparer, même s'il n'est pas du tout comparé avec Prince of Persia, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a dans Dragon, il y a une âme. Enfin, le film a une âme.
Ça. C'est ça.
C'est son principal. C'est ça. Même, c'est son principal intérêt. Oui.
Il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on croit à l'histoire et on a envie d'être à la place d'Harold. Et ses amis. Voilà. Et moi aussi, je veux voler sur le dos d'un dragon.
Alors, pour le cadeau de Noël de Gilles Ocel.
On ferait mieux un dragon.
Bon, Shrek 4, pour rester dans l'animation.
Le film sans âme.
Justement, c'est une production DreamWorks, dans le pire de ce qu'elle peut offrir. Contrairement justement à Dragon. Là, on a eu le pire et le meilleur la même année, je dirais que. C'est vraiment une suite de suite.
Je serais pas aussi extrême. Moi, il m'a pas marqué par rapport je me souviens de Shrek 2, donc je me souviens encore de certaines répliques qui m'ont beaucoup plu. J'ai trouvé meilleur que Shrek 3, qui m'avait vraiment déçu. Mais j'ai trouvé beaucoup trop anecdotique, en fait, du début. Enfin, on arrive à la fin de la saga. Entre le début de Shrek 4 et la fin, les personnages n'ont pas évolué, l'univers n'a pas évolué, on a eu juste quelques nouveaux personnages intéressants, mais
Les personnages, enfin, moi, je l'ai pas vu, hein, mais il m'a semblé que le chat avait un peu évolué.
Oui, c'est justement, c'est juste un univers parallèle qui se remet, qui revient à la normale à la
D'accord.
fin.
J'ai trouvé que c'était une astuce scénaristique, très très facile. Et d'emblée, en fait, quand je suis allé le voir, je m'attendais en fait à être déçu. J'ai été très très déçu, donc c'est...
Ça remplit tes attentes,
ça, en fait. Ça remplit complètement mes attentes, quoi.
Bon, l'apprenti sorcier. Qui l'a vu déjà?
Je l'ai pas vu.
C'est pas Jerry Bruckheimer, ça? Donc je ne l'ai pas vu.
Enfin, moi j'ai vu, j'ai fait la critique sur le site, donc je peux. J'ai une vision pas très objective, parce que je trouve que pour une fois Nicolas Cage revient à un moment à peu près supportable, sa perruque est moins ratée que précédemment. Oui, j'ai pas vu qu'il casse forcément. Et puis voilà, je trouve que c'était alors là aussi ça casse pas trois pattes d'un canard, c'est pas la révolution ni la révélation de l'année en matière de cinéma fantasy, c'est plutôt pour moi en tout cas bien mieux que Benjamin Gates voilà, ça c'est ma vision.
En même temps, on partait de très bas sur la cité de Benjamin Gates.
Donc on progresse.
Donc L'apprenti sorcier, j'ai aussi trouvé que c'était un film sympathique. Bon, évidemment, pour moi, c'est un peu, justement, de la même crèmerie que Prince of Persia. Il n'y a pas grand-chose à en attendre. On le regarde, voilà, on apprécie sur le moment, et puis on oublie ensuite. À noter, d'ailleurs, que les deux films n'ont pas tellement marché au box-office, donc je sais pas si faut attendre des suites dans les deux cas pour ceux qui seraient convaincus au point d'espérer un apprenti sorcier 2, 3, 4, 5, soyons fous. Un film honnête, mais sans plus. C'est plus du grand divertissement familial que...
De l'entertaining.
Oui, mais enfin, on peut pas non plus, sur le bilan de l'année, enfin on en reparlera à la fin, mais je crois pas qu'on puisse dire qu'il y a une production de film fantasy qui soit marquante pour cette année.
Oui, on en parlera en bilan, de toute façon.
Harry Potter? C'est un peu tôt encore?
Je l'ai vu.
Ouh!
Alors, comme comme le 5 et le 6, j'ai trouvé que le 7 en fait était fidèle en fait à David Yates, c'est-à-dire avec ses défauts et ses qualités. Défauts, un nombre d'ellipses incroyables dont on se serait vraiment bien passé, encore une fois. Qualité, j'ai trouvé que l'ambiance, la photographie était vraiment... nous aidait vraiment bien à rentrer dans le film. Moi, j'ai quand même passé un bon moment. C'était pas incroyable, c'était pas ce que j'ai ressenti quand j'ai lu le septième tome, mais on a quand même des scènes assez sympathiques quand elles sont pas un peu coupées, comme la scène de Godric Solo qui dure 3 minutes 30, alors que c'est pour moi une des scènes principales du livre, et que l'accent est pas du tout mis sur...
On repart donc sur cette polémique habituelle j'ai lu ou j'ai pas lu Harry Potter et je vois le film en comprenant ou je le vois sans rien comprendre, c'est un peu ça.
C'est exactement ça, ouais. Enfin, il faut vraiment avoir lu le septième tome, enfin même la saga dans son entier pour comprendre le septième film. Sinon, c'est clair qu'on va être largué. Et moi, je l'ai pas lu depuis 3 ans et c'est vrai qu'il y avait des choses dont je me rappelais plus. Ça appelle à relire quand même. Et je terminerai sur quelque chose que j'avais bien aimé personnellement et qui apparemment était bien apprécié aussi selon les critiques du forum, c'est la petite animation qu'on a pendant le film, que j'ai trouvé vraiment bien faite, qui nous évite d'avoir un jeu d'ombre quand on a des flashbacks avec des fondus. Pas mal, mais j'attendais mieux.
Alors moi, j'ai aussi 2-3 trucs à dire. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur l'ambiance. Moi, j'ai trouvé qu'au contraire, l'ambiance était vraiment pas terrible. Ça ne redonnait pas l'ambiance du bouquin. C'est-à-dire que là, oui, la photographie est superbe, hein, ça, pas de doute. Mais il n'y a pas vraiment d'âme dans les personnages sont pas très travaillés, en particulier les personnages secondaires qui auront normalement une grosse importance dans le huitième opus, qui là sont pas du tout travaillés. Il y a des scènes qui sont presque artificiellement longues et d'autres qui sont complètement amputées, comme Godric Solo justement. Oui. Donc honnêtement, pour moi, c'est plutôt une déception.
Personnellement, donc, je l'ai vu aussi, et je dois dire que je suis rentré dans le film 10 minutes, et puis j'en suis gentiment sorti.
C'est dommage, ça dure plus longtemps que ça.
Oui, c'est vrai que bon, on s'ennuie pas, mais là aussi, je n'ai pas du tout retrouvé les sensations de ma lecture. Je trouvais que l'ambiance était... Bon, pour nous faire comprendre que c'est long de passer du temps sous une tente, seul, perdu, sans savoir ce qui se passe dans le monde extérieur. On passe de nombreuses scènes sous une tente, seul, perdu, coupé du monde extérieur, mais alors, on peut dire que c'est très réussi. Mais ça aurait pu peut-être être amené de façon un peu plus subtile, je sais pas.
Plus allégorique.
Pourquoi pas, mais non, enfin, je retrouve la même sensation que pour les deux films précédents, là aussi, j'ai... Depuis le troisième et même le quatrième, la coupe de feu, j'avoue que bon, j'ai trouvé ça plutôt réussi. Mais alors depuis, pour moi, c'est du même. Je vois même pas de différence avec un Prince of Persia quoi dans l'année. C'est
carrément.
Je me suis pas plus. Enfin, le film m'a pas plus marqué. J'ai pas été plus pris dans l'histoire avec les reliques de la mort.
Bon. Le royaume de Gaol.
Alors,
personne ne l'a vu, non pas non plus.
Moi j'ai vu.
Oui.
Alors, pareil, là, la photographie est superbe. Honnêtement, l'animation est vraiment hyper bien faite. Les chouettes sont bien, on croit vraiment au mouvement des chouettes. Ça paraît naturel, les vols, les scènes de vol sont super belles. Bon, je l'ai vu en 3D, j'ai trouvé que ça apportait rien, mais bon, ça c'est un détail. Je suis pas un adepte de la 3D d'un point de vue général, donc voilà. Ensuite, alors j'ai pas lu le bouquin, mais à ce qui paraît, c'est bon, il y a beaucoup d'ellipses, mais l'ambiance y est. Ensuite, c'est rapide, c'est très rapide. Apparemment, c'est les trois premiers bouquins, celui-ci. Donc, on n'a pas le temps de s'ennuyer, il se passe des trucs tout le temps. Ensuite,
réalisateur de 300 en même temps, c'est normal.
Voilà. Ensuite, j'ai pas trouvé non plus que c'était transcendant. Il y avait pas disons qu'on n'accrochait pas plus que ça au personnage, on n'y croyait pas plus que ça. C'est surtout ce que j'aurais à reprocher.
Mon avis rejoint le tien, Calabet. Bon, déjà, moi, je l'ai vu sans 3D, parce que j'avais fait des pieds et des mains à mon ami pour trouver un cinéma pour pas le voir en 3D. Je peux vous dire que ça a été très, très difficile. C'est un film visuellement magnifique. Je pense qu'avec Avatar, c'était un de mes gros coups de cœur, vraiment au niveau de l'animation. Je pense que c'est vraiment... Ça se rapproche pour moi de ce qu'on fait de mieux. Vraiment là-dessus, j'étais très 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 agréablement surpris, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est vrai que ce que je reproche au film, c'est son extrême rapidité. Tout va très très trop vite. Les scènes sont passées à vitesse grand V. On n'a pas le temps de s'attacher aux personnages. Les personnages secondaires, j'en parle même pas. Ils sont complètement inexistants. Et au final, ça m'a gâché tout le film. Et c'est ça que je regrette.
C'est un film apparemment assez sombre, donc peut-être qu'on finalement entre le rythme qui est vraiment échevelé et le côté sombre du film, on peut peut-être pas non plus emmener des enfants trop jeunes, 3-4 ans, 5 ans.
C'est vrai que tu fais bien de rebondir sur ça, parce que effectivement, ce que j'avais bien aimé dans ce film-là, c'est qu'il est assez noir. Pour un film d'animation jeunesse. C'est assez accentué là-dessus, d'ailleurs, donc j'étais plutôt surpris, et là encore, j'ai bien apprécié. Malgré tout, j'aurais aimé, de mon point de vue, que ce soit encore plus sombre, mais peut-être que c'est mon point de vue, je ne suis plus un enfant, malheureusement.
C'est ça, peut-être
qu'un des enfants tous étaient effrayés, c'est pour ça qu'il a peut-être pas super bien marché au box-office.
Peut-être que pour les enfants aussi, c'est pas la peine de s'apesantir sur la... Nous, en tant qu'adultes, on est peut-être pas gêné par le fait que tout ce qui est sombre, ça soit traité avec une certaine lenteur, avec un temps d'immersion. Pour un enfant, c'est sombre, il comprend tout de suite que c'est sombre, il n'a pas besoin qu'on lui explique très longtemps, et voilà, il faut peut-être pas que ça dure. Enfin, moi, j'ai pas vu le film, donc je peux pas.
Peut-être que la chouette est fraîche.
Oh, oui.
Merci, merci.
C'est la blague du podcast.
Alors, si on passait à quelque chose de plus lumineux, de plus léger, réponse? Ah, je suis la seule à l'avoir vu, donc. Bon, qu'est-ce que je peux vous en dire? Oui, c'est ça, oui. Non, c'est un bon Disney. C'est il faut pas être allergique aux chansons Disney. Il faut pas non plus être allergique aux histoires de princesses qui rencontrent un prince charmant, parce que ça reste quand même le scénario classique. Maintenant, je trouve que Disney réussit à s'adapter à une certaine modernité de façon bien efficace. Elle est pas cruche cette héroïne, la sorcière est pas aussi, on est moins dans le manichéen que jusqu'à présent chez Disney. Bon voilà, il y a des grosses scènes rigolotes avec une taverne de bandits qui est vraiment hyper intéressante, un Cupidon pépé, un pépé Cupidon d'ailleurs plutôt, qui est très très drôle. Voilà, des petits animaux, des personnages secondaires qui sont bien traités. Un caméléon qui m'a bien plu, un cheval qui ressemble plus à un chien sniffer qu'à un cheval, mais bon, ça marche quand même. Voilà, c'est un bon moment, c'est très clairement jeunesse, il n'y a pas beaucoup de deuxième niveau de lecture là non plus.
C'est un Disney,
voilà.
Je dois souligner que oui, moi la bande-annonce, je l'avais regardée sans y attendre grand-chose, elle m'avait fait vraiment rire, ça m'a vraiment donné envie d'aller voir le film.
Je pense que pour plein de gens, ça peut attendre une petite sortie DVD. Voilà, c'est pas non plus le mouvement ciné de...
J'attendrai le DVD, déjà.
Il nous reste un film qui est sorti en 2010, mais qu'on est peut-être assez peu nombreux à avoir vu, hein, parce que je sais pas si vous avez eu le temps, mais l'Odyssée du Passeur d'Aurore. Ah, j'y le sais.
J'ai le plaisir de le voir un peu plus tard qu'hier. Donc je dois dire, bon, si vous aviez apprécié le prince Caspian pour son côté justement un peu plus sombre, et on va pas dire adulte, il faut pas exagérer, bon bah attention, parce que l'Odyssée du Passeur d'Aurore, on revient vraiment à l'ambiance un peu conte de fées du premier.
Oh non.
Si, avec un... Bah, le scénario est vraiment... Le scénario est vraiment linéaire, quand on part, c'est une quête assez basique en somme, pour retrouver 7 épées, etc. On retrouve l'univers de Narnia.
Pour ceux qui n'auraient pas entendu, Gilo vient de faire.
Donc si vous aimez Narnia, l'univers en lui-même, bon là aussi c'est un vrai plaisir de le retrouver, d'entrer de nouvelles créatures, d'explorer de nouveaux lieux merveilleux. Après, on est finalement plus proche de je ne sais pas comment dire, d'un Ray Harryhausen que du Seigneur des Anneaux. Au niveau de l'ambiance, donc on peut parler non plus des 7 voyages de Sinbad, mais bon, finalement on est beaucoup plus proche d'un film d'aventure de ce genre-là que d'un simili Seigneur des Anneaux, donc le film a apparemment démarré moyennement, donc je sais pas s'il y aura un chapitre 4 du monde de Narnia, donc si vous voulez en voir un au cinéma, allez-y, on sait jamais. Globalement le film est sympathique, mais là aussi on peut pas dire qu'on se distingue vraiment de la masse des sorties de l'année.
Très bien. Au niveau télé, Fabré peut-être.
Oui, ben moi j'ai pas trouvé mon bonheur au cinéma, mais je l'ai trouvé à la télé. C'est Sky One, donc qui proposait un téléfilm en deux parties, donc qui s'appelait Timbré, donc l'adaptation de Terry Pratchett du livre du même nom. Et c'est vraiment mon coup de cœur de l'année au niveau des adaptations. Il y avait déjà eu Le Père Porcher et La Huitième Couleur qui avaient été adaptés. C'était pas mauvais, j'avais trouvé. Ça avait des gros problèmes de rythme et peut-être quelques acteurs qui étaient un petit peu cabotins, comme le Rincevent notamment. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait presque un sans faute. Hein. Les acteurs sont vraiment bons. J'ai noté notamment Richard Coyle, donc qui joue Moat von Liebfig, qui était très bon. La reconstitution de Morpork aussi très très intéressante. Donc, mais c'était déjà bien fait dans Le Père Porcher, donc ça c'était pas un défi forcément. Non, c'est vraiment la grosse bonne surprise de l'année.
Il n'a pas un problème de prononciation, hein. Ankh-Morpork, c'est une ville dans l'univers de Pratchett.
Mais moi aussi, je plus sois, comme on dit. pour moi, c'est le meilleur téléfilm des trois déjà produits par Sky One. Et aussi bien au niveau de l'interprétation que de l'adaptation, vraiment, on sentait déjà le soin et l'amour des gens derrière ces adaptations pour justement les romans de Terry Pratchett, mais là vraiment l'objet lui-même, le téléfilm lui-même franchit une étape en vraiment haussant le ton au niveau de la qualité, c'est vraiment un cran au-dessus des précédents. Et à noter d'ailleurs qu'il sera diffusé en France, je ne sais pas quand vous écouterez ce podcast, mais il sera diffusé en France chez Orange Cinéma Série sur Cinéapi, je crois, ce mois-ci, donc en décembre.
Et on notera, donc c'est encore dans longtemps, en 2012, l'arrivée de l'adaptation de Aller les Mages, il me semble.
C'est ça.
Est-ce qu'on retrouve l'humour et les 20e degrés de Pratchett dans ces adaptations, ou c'est plus léger que ça?
Non, l'humour est là, puisque les personnages sont là et que ce sont vraiment eux qui transmettent l'humour. Naturellement, il n'y a pas les notes de bas de page, il n'y a pas de choses comme ça. Mais oui, non, c'est pas forcément une comédie, mais c'est toujours très léger, c'est très drôle, c'est très fun, et c'est vraiment sympa.
Bien. Je crois qu'on a fait le tour sur les impressions de l'année en ciné et en télé. On retient rien d'exceptionnel, quoi.
Ouais, sauf Timbré.
Sauf Timbré.
Enfin, moi, quand je regarde l'année, les films qui m'ont marqué, c'est quoi? C'est Kick-Ass, c'est Inception, c'est The Social Network, et c'est Scott Pilgrim, donc strictement rien de fantasy.
D'accord.
Et j'espère que ça sera corrigé en 2011.
On a dit qu'on n'en parlait pas. On a dit qu'on n'en parlait pas. Bon, est-ce qu'on peut maintenant passer au bilan qui nous concerne un peu plus près, le bilan elbacking.net? On va commencer par ce qui a occupé une petite partie de l'année, ou...
Allons-y. Eh bien donc, cette année 2010 a vu les 10 ans du site, ce qui évidemment a été fêté comme il se doit. Donc, puisque notamment au mois de septembre, tout le mois de septembre, vous avez pu assister à diverses opérations, on va dire, pour revenir sur notre, sur 10 ans d'Elbacking.net, d'Elbacking.com d'ailleurs, même, pour être tout à fait juste. Bon, que dire de plus, évidemment, c'est 10 ans, c'est long. Vous le sentez peut-être dans ma voix.
Il est très très fatigué, hein. Il est beaucoup plus vieux qu'il n'y paraît.
Évidemment, c'est aussi 10 ans de découvertes, de surprises, 10 ans de plaisir, bien sûr, et 10 ans de lecture qu'on espère poursuivre pour au moins 10 ans de plus. Allez, soyons fous, ça ferait 20 ans, c'est déjà pas mal. Et puis cette année elle-même a vu, justement, en partie pour contribuer à fêter ses 10 ans, l'instauration d'un prix littéraire, Elbacking.net. C'est une idée qui nous trottait dans la tête depuis quelques années et qu'on a fini par enfin lancer concrètement cette année. Donc pour les nominés, les vainqueurs, etc., je vous renvoie sur le site lui-même, on les a déjà cités aussi en partie. Donc on a été très contents du résultat, on doit dire, notamment des trophées, qui ont beaucoup plu aussi aux auteurs distingués de leur côté. D'ailleurs, des trophées qu'on a pu leur remettre finalement à tous en main propre, que ce soit lors de la Convention nationale de science-fiction et de fantasy à Grenoble fin août, ou donc aux Utopiales, et puis donc pour le dernier à Montreuil.
Ouais, ça c'était assez inespéré, donc, quand on a commencé à penser,
oui,
à,
parce que, évidemment,
à parler du prix et à désigner les vainqueurs.
Ça dépend, c'est vrai que... ça dépend des venues d'auteurs en France, et évidemment, on n'a pas choisi les vainqueurs en prenant les auteurs qui venaient en France, au cas où certains se poseraient la question.
Mais sinon, l'année prochaine, on est obligé de récompenser Robin Hood. C'est dommage.
Évidemment, ces paroles n'engagent que toi, Witch, comme d'habitude.
Je vois pas où est le problème.
Mais évidemment, pour ceux qui se poseraient là aussi la question, le prix a vocation à être annuel et sera évidemment de la partie l'année prochaine, et sera pas une fois tous les 10 ans, hein, puisque c'est pas un prix récompensant 10 ans de fantasy, donc... on continuera là-dessus. Dès 2011 et puis les années qui suivront. Si la fin du monde n'est pas arrivée, donc pour 2012 évidemment, mais ça c'est une autre question.
Alors 2012, ça sera un événement aussi à nouveau important pour Elbacking, pas autant que les 10 ans, mais on peut déjà vous annoncer que nous participerons à l'organisation de la deuxième convention française de fantasy, puisque nous avons eu la première cette année à Grenoble, qui s'est vraiment bien passée. Ça a été un bon moment pour ceux qui y étaient. On a regretté que vous soyez pas là tous plus nombreux, mais on espère bien qu'avec l'édition 2012 qui sera à Orléans, donc de façon un peu plus centrale, on aura beaucoup plus de participants fantasy. Nos amis de la SF ont été des hôtes agréables et généreux, donc on recommence une collaboration avec eux en 2012.
Et on espère évidemment toujours plus de débats, d'auteurs invités. Là aussi, on va essayer de faire encore mieux, bien sûr.
Sur le site en lui-même, on peut parler comme événement important en 2010 d'une section importante à Cannes.
Bah oui, le lancement de la section jeux. Donc jusqu'ici, elbacking.net, c'était des critiques de livres, de BD, de films. Donc cette année, très exactement le 20 avril 2010, on a ouvert une section jeux, donc jeux de société en particulier, jeux de cartes. Ça a pas trop mal marché, puisque pour l'instant on a 37 critiques, on a 734 messages sur le forum. Donc on a deux interviews d'auteurs très récemment, et on compte bien donc continuer sur cette lancée. Donc on est maintenant 5 membres et on a un certain nombre de critiques en chantier et d'idées diverses et variées. Et donc voilà, un bilan plutôt positif au final.
Le but étant aussi de proposer de plus en plus aux gens qui font partie de l'association ou qui n'en font pas partie d'ailleurs, de se réunir pour jouer ensemble à ces jeux qui sont critiqués ensuite ou qui sont critiqués avant sur elbacking.net.
En effet, ouais. Cette année, en plus, quand on a voulu lancer cette section de jeux, histoire que tout le monde connaisse les premiers jeux qu'on a critiqués, on a fait quand même au moins une fois par mois une après-midi jeu où on se réunissait avec les membres de la section jeux ou d'autres membres. Et c'était très sympa. Oui. On compte bien continuer.
Parce que derrière les pseudos et les voix, il y a des gens.
Et puis de toute façon, ce n'est qu'un début, puisque là aussi, on peut remarquer que, on va dire que le succès, entre guillemets, de la section va croissant, puisqu'on a quand même des news de plus en plus régulières, notamment, et puis donc des jeux aussi de plus en plus... Enfin, on essaie d'élargir l'éventail des critiques de jeux proposés, et puis d'en discuter dans la bonne humeur, hein, puisque beaucoup de lecteurs sont également joueurs, donc pourquoi non plus... Pourquoi oublier cette partie importante de l'imaginaire?
Je crois qu'on a fait le tour sur l'année elbackingienne. Bon, alors, et pour 2011, vous proposez quoi? Qu'est-ce qui vient? À part l'hiver?
Justement, attention. Justement.
Alors, avant de parler de Game of Thrones, on va peut-être parler un peu littérature, non?
C'est pas de la littérature, donc Game of Thrones.
Non, de la série télé, parce que il y a quelques grosses sorties.
Bah, puisqu'on en parle, Dance with Dragons, le tome 5 du Trône de Fer, qui est censé sortir
première moitié 2011.
Première moitié.
On croise les doigts très fort, on touche du bois.
Alors, les Yen depuis 5 ans, donc.
Là aussi, oui, pour ceux qui ne suivent pas cette actualité-là, parce qu'il y a peut-être des gens pour qui c'est pas essentiel. George R.R. Martin est un auteur qui se fait attendre sur la suite, donc voilà, les gros fans du Trône de Fer sont suspendus à sa plume et à sa capacité à écrire un peu plus vite.
Donc on poursuit avec la VO du coup
Oui.
Oui, on attaquait sur la VO, on parlera peut-être de la VF après. J'ai noté notamment la suite donc très attendue du Nom du Vent, donc Wise Man's Fear, qui est là, qui arrive en mars, donc elle est sûre.
Vous avez pu voir les premières images de la copie éditeur voilà. Sur le forum.
Et donc je pense que ça va être du lourd autant en poids qu'en qualité, puisque le Nom du Vent c'était quand même une des grosses sorties de 2009. Je sais pas, quelqu'un peut-être a des mots à dire sur cette suite, non?
On l'attend.
D'accord, très bien. Peut-être un peu moins sûr, mais ce sera en 2011, c'est sûr. C'est le troisième tome Mensonges de l'Oklamora. C'est La République des voleurs en anglais. J'ai pas envie de vous arracher le nom. Donc on va l'attendre pour février-mars 2011, normalement. Il y a eu quelques soucis, quelques retards, mais là je pense que c'est à peu près sûr. Très très grosse sortie pour le février. La fin, le dixième tome du livre malaisien des Glorieux Défunts, donc The Crippled God.
Il n'aurait pas le temps de lire les neuf tomes avant la sortie du dixième.
Là, je veux dire, c'est attendu au moins par moi. Ça va être le dernier tome de ce que je considère comme la meilleure série de fantasy épique de ces 10 dernières années. Et surtout que Steven Erikson a réussi à nous sortir 10 tomes en espace de 10 ans, donc c'est quand même assez c'est à noter pour nous qui attendons beaucoup les auteurs. Erickson s'est déjà attelé à d'autres projets, donc notamment une trilogie préquelle. Donc quand je dis préquelle, c'est plus de 100 000 ans avant les Jardins de la Lune.
Ah oui.
Donc qui s'appellera, donc qui se passera à Carcanas, pour ceux qui connaissent. Et le premier tome a déjà un nom, ça sera The Forge of Darkness. Et il s'attelle aussi à des petites nouvelles, donc sur deux personnages qui s'appellent Bochlein et Kobalbroch. Donc il devrait sortir la quatrième nouvelle, et ce serait Excessive Obvious.
D'accord. Voilà. Moi, je peux signaler aussi la sortie de Namas Blessing, qui est le troisième tome de la troisième trilogie de Jacqueline Carey dans le monde de Kuchel. Donc, ceux qui ont déjà avancé sur les deux premières trilogies en VO, il y a une troisième trilogie qui se passe environ 150 ans ou 200 ans plus tard par rapport à la fin de la deuxième trilogie. C'est une héroïne différente avec... un monde qui a un petit peu évolué et toujours la très belle qualité d'écriture de Jacqueline Carey. Donc le troisième tome qui conclut sa trilogie est très attendu par les lecteurs VO. Je pense qu'on peut aussi parler, parce que moi j'ai eu la chance de lire en VO les deux premiers chapitres du prochain Orson Scott Card qui s'appelle The Lost Gate. C'est un tome 1 dans une série qui va parler de Dieu isolé sur Terre. Ça reprend énormément de mythologie, visiblement. Le héros est un jeune garçon qui vit parmi une famille de descendants de Dieu, on peut dire ça. Et, sachant que Midgard, la Terre, a été isolée du monde des dieux par Loki. Qui a fermé toutes les portes de connexion entre ces deux univers. Et enfin moi les deux chapitres que j'ai lus sont vraiment de très grande qualité, avec une immersion immédiate dans l'univers, beaucoup d'informations sur l'univers tout de suite, et un démarrage en fanfare. Moi je crois que Card là fait un retour qui risque d'être assez remarqué.
Alors personnellement j'aurais également deux titres que j'attends avec une certaine impatience. Donc le nouveau Daniel Abraham, on le connaît pour les Cités de la Lumière en France. Et là son nouveau roman c'est The Dragon's Pass, n'est-ce pas ? Et très attendu parce qu'en fait c'est un auteur qui fait on va dire la fantasy épique malgré tout, mais pas forcément la plus accessible qui soit, ou la plus épique qui soit justement. Et là c'est une série beaucoup plus classique dans son intitulé. Et dans ses, toujours aussi ambitieuse, donc c'est surtout ça qui m'intéresse, toujours aussi ambitieuse, mais beaucoup plus classique, puisque se rapprochera beaucoup, donc, notamment du Trône de Fer, etc., puisque l'auteur a collaboré aussi avec Martine, justement. Et donc, j'avoue que j'attends ça avec une certaine impatience, de même qu'un autre titre, excusez-moi. Donc, c'est The Unremembered de, Peter Aurelian. Alors attention, c'est un gros pavé de 900 pages, ouais. Attendu pour avril, je crois, chez Thor. Et donc ça devrait être une de leurs sorties majeures au niveau des parutions américaines. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir en lire une version non révisée, on va dire. Alors c'est assez spécial, puisque l'auteur est très... pour le coup, c'est de la fantasy épique très classique en apparence, avec... un jeune garçon qu'on vient chercher dans son qu'un mystérieux bonhomme vient chercher dans son village.
Ça me rappelle rien du tout.
De nuit, il l'oblige à partir, à tout quitter, et il veut pas lui dire pourquoi il l'emmène, enfin, etc.
C'est original.
Why
him?
C'est très original. Mais je sais pas, l'auteur a quelque chose dans le ton, dans le lyrisme, je saurais pas vraiment qualifier, qui m'ont malgré tout poussé à lire jusqu'au bout. Donc, en espérant peut-être qu'en retravaillant un peu son manuscrit, le roman y gagne, j'avoue que je serais assez curieux de voir le résultat final. Et à mon avis, c'est vraiment une des grosses sorties de l'année pour Thor.
Moi, j'ai repéré aussi un livre qui s'appelle « In the Shadows of Swords », d'un auteur que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Val Gunn. Ça semble mélanger fantasy et espionnage, ce qui, moi... me semble assez peu commun, tout ça dans une ambiance désertique, nomade, Moyen-Âge désertique. Donc voilà, ça a l'air d'être de faire un petit frisson au niveau édition. avec l'idée que ça part très très vite là aussi, et je pense que ça sera peut-être du même niveau que Brent Weeks, au niveau pas forcément du roman qui laisse L'Ange de la Nuit, la trilogie de L'Ange de la Nuit, pas un roman qui laisse un fort souvenir, mais quelque chose qui va vite et qui est en one shot ou deux, je crois, c'est pas forcément bien prévu. Voilà, je peux pas en dire plus pour l'instant, j'ai pas lu d'extrait, mais ça avait l'air assez intéressant. Il y a aussi le Don't Be Afraid of the Dark qui va être en livre, qui est un livre qui est basé sur le film de Guillermo del Toro. Donc ça aussi, ça sera intéressant, sur cette petite fille qui habite avec son père et sa belle-mère dans une maison hantée. Voilà, pour ceux qui connaissent Courtney Cromreen, moi ça me parle. Autre chose, en France peut-être ?
Ouais, on va peut-être revenir en France. Il y a notamment, au niveau des poches, il y a deux sorties très intéressantes. Donc Gagner la guerre, qui était, je pense, un des grands romans de fantasy française depuis l'Ordre de Contrevent. Et il y a le Déchronologue, donc qui sort. La Gagner la guerre, c'est pour février chez Folio SF, et le Déchronologue avril aussi, non, pour mars, pardon, chez Folio SF également.
Et cette année, on aura aussi donc une bonne nouvelle pour les fans de Sanderson, donc la version poche d'Elantris, qui sera en un seul tome, et qui reprendra donc la couverture de la version originale, donc de l'illustrateur Martinière, que je trouvais pour ma part très jolie. Donc ça sortira chez Olive de Poche. Alors par contre, en 2011, mais aucune idée pour la date exacte. La bonne nouvelle étant que ce ne sera pas scindé, comme le grand format.
Cela dit, la fin de la trilogie arrive chez Orbit en avril, c'est ça ?
Je ne parlais pas de Fils des Brumes, en fait, je parlais d'Elantris.
C'est vrai, donc la fin de la trilogie en ultime arrive chez Orbit. Donc, de toute façon, les fans de Sanderson en trouveront encore à manger.
Oui, ça arrive en mars, et c'est très attendu, surtout par Merwin.
Et pour rester dans le grand format, on peut aussi citer une curiosité, donc avec la parution d'un Elric inédit, donc écrit par Fabrice Collin, donc en collaboration avec Michael Moorcock, bien sûr, mais c'est Collin qui se charge de toute la rédaction du livre proprement dit. Donc avec une, j'ai pu voir la couverture, une magnifique couverture de Brom, pour ceux qui aiment cet illustrateur. Et donc c'est prévu au deuxième trimestre 2011, et à mon avis ce sera à suivre avec curiosité, parce que Colin dans l'univers d'Elric, on a déjà vu ça dans une nouvelle, mais à l'échelle d'un roman, j'avoue que je suis curieux.
Bon, on a fait un petit peu le tour, je crois, en littérature. Télé, ciné...
Télé, série télé, HBO, avril, c'est tout ce qu'il y a à retenir pour 2011. C'est l'adaptation naturellement du Trône de Fer, donc qui s'appellera Game of Thrones.
Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas été sur le site depuis les 6 derniers mois à peu près.
Oui, on a eu récemment du très lourd au niveau du contenu, puisqu'on a eu des trailers, on a eu un reportage d'une dizaine de minutes qui nous a montré beaucoup de scènes, et je pense qu'il a rassuré vraiment tout le monde. Ouais. J'étais pas forcément effrayé d'ailleurs, puisque HBO, on est confiant. Ça va être du très très lourd, faut le dire.
Oui, d'accord. Clairement. Que ce soit point de vue casting ou mise en œuvre, moyen, etc., tout a l'air vraiment nickel, quoi.
Alors moi qui suis pas une lectrice fan extrême de Martine, en tout cas j'ai lu le premier tome, donc je pourrais suivre la première saison. Non, mais l'idée c'est que je viens de voir récemment Les Piliers de la Terre, qui est une adaptation qu'on peut comparer un tout petit peu, parce qu'au niveau, en tout cas, d'une certaine ambiance recherchée, c'est un peu comparable. Et pour avoir pu voir donc Les Piliers de la Terre et comparer au trailer et aux quelques images qu'il y a sur le Trône de Fer, on n'est pas du tout dans la même catégorie, hein. Il y a HBO, mais vraiment des moyens qui sont au-delà de ce qui a pu être mis dans Les Piliers de la Terre, qui est pourtant déjà une très bonne adaptation, hein. C'est pas un bouquin qui m'intéresse, mais en tout cas la série est pas de mauvaise qualité, mais elle est vraiment en dessous de ce qu'on a pu voir déjà du Trône de Fer.
Quitte à être extrême, je pense vraiment que Game of Thrones sera le Seigneur des Anneaux de la télé. Moi, je dis ça comme ça. Après, je serais déçu, mais...
Bon. Alors, ce qui sera peut-être pas le cas de Conan.
On a peur. Conan de Barbare, qui est redevenu barbare, dans le titre.
Je dirais même pas, enfin moi j'ai même pas peur parce que bon, j'en attendais rien dès.
Oui, c'est ta technique, tu es déjà déçu.
Enfin, dès l'annonce du réalisateur Marcus Nispel, bon, on a quand même. Enfin, tous les éléments sont réunis pour avoir peut-être vraiment un navet 2011 au niveau des films fantasy. Voilà, moi j'irais, c'est un film que j'irai certainement pas voir, parce que si c'est pour avoir un remake des Conan avec Schwarzenegger, ce sera non.
On avait, c'est peut-être un terme un peu fort, d'autant que le film ne se veut pas un remake justement,
c'est vrai.
Mais bien une histoire originelle, on va dire, enfin originelle et originale. Bon, c'est vrai qu'il fait un peu peur à tous les fans, notamment les fans d'Howard justement, qui ont pu redécouvrir le personnage à travers les anthologies de Brajlon. Donc à ce niveau, c'est sûr que se retrouver avec apparemment, parce que le film est finalement assez discret, peu de photos, toujours pas de bande-annonce, il faut vraiment guetter les infos au compte-gouttes. Apparemment, on se retrouve donc avec une banale histoire de vengeance, qui ne correspond pas vraiment finalement à Conan tel qu'on le connaît. Donc quant à savoir ce que ça va donner au niveau du casting, Jason Momoa a l'air de tenir le rôle, en tout cas physiquement. Et puis ça nous change un peu, pour le coup, de, même si je l'aime beaucoup, de Schwarzenegger, donc c'est pas... J'avoue que le choix m'a plutôt surpris, mais pas forcément en mal. Donc j'avoue que j'attends finalement, en tout cas avec curiosité, le film. Après, quand je pense pas qu'on puisse le condamner d'avance, après il faut sans doute pas trop en espérer non plus, mais après tout, vu que les producteurs disent qu'ils essayent de ratisser large avec le premier pour faire une adaptation plus fidèle avec le second... Ce qui me semble un raisonnement assez particulier, parce que si après les gens ils ont aimé le premier pour ce qu'il est, ils aimeront peut-être pas le second s'il est totalement différent.
Tu peux dire assez absurde, bon. Ouais, moi je le dis.
tu le dis. Et ces paroles n'engagent qu'à toi.
Exactement.
Mais bon, c'est une, en tout cas, ça sera une des sorties majeures de 2011, normalement fin août, même si le film n'a pas encore de date précise pour la France.
Mais avant fin août, il y aura eu juillet, et juillet, il y aura eu.
Harry Potter. 7,5 ou 8, je sais pas trop ce qu'on peut dire.
9,75
Pour le dernier, quoi. Le dernier, en tout cas, donc, je pense que tous les fans de la série en espèrent beaucoup, parce qu'il y a quand même certaines scènes du bouquin qui sont a priori très cinématographiques.
À part l'épilogue.
Donc, pas mal de fans espèrent qu'il n'y aura pas d'épilogue, mais malheureusement, ça s'est mal barré.
Ça a été tourné.
Voilà. On en a vu des images d'ailleurs, ce qui n'est pas très engageant non plus. Enfin bon, ça n'engage que moi, encore une fois. Oui, ça c'est clairement la grosse sortie.
Oui, épilogue. Harry meurt peut-être, ou pas. On ne sait pas.
On ne dira rien. Mais voilà, ça c'est la grosse sortie, qui est quand même très attendue, je pense, d'un point de vue général.
Alors moi c'est marrant parce que j'attends plutôt un truc un peu drôle dont j'ai vu la bande-annonce et qui m'a beaucoup fait rire, c'est Il y aura Inès, moi je crois que ça va être mon grand moment de plaisir.
Je crois qu'on s'est tous bien marrés devant la bande-annonce bien débile.
Ouais, la bande-annonce.
Le film, le synopsis nous présageait bien quelque chose de débile, mais la bande-annonce le confirme et c'est vraiment agréable. J'attends ça avec impatience, hein, sans trop en attendre non plus, mais je pense que... Ça va être bête.
Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi du tout, il semble que c'est une ambiance un peu parodie avec, alors j'ai totalement oublié le nom du d'acteur principal.
James Franco,
ouais.
De McBride,
ouais.
Natalie Portman, voilà. Zooey Deschanel.
Voilà.
Donc du beau monde.
Et l'idée, c'est deux héritiers d'un royaume qui sont très différents, aussi différents que peut être le noir et le blanc, donc un paladin habituel, héros de base, et puis son frère qui lui est beaucoup plus casanier et beaucoup moins doué pour la chevalerie, et qui a pas spécialement envie d'être très chevalier d'ailleurs, la fiancée du super prince est enlevée par l'affreux méchant sorcier habituel, et donc le roi charge les deux frères d'aller à la recherche de cette de cette fiancée qui, bien entendu, pendant ce temps-là, est prisonnière et vous imaginez toutes les choses horribles qui peuvent lui arriver. Et donc, voilà, la bande-annonce montre... Alors, Nathalie Portman doit jouer une espèce d'aventurière qui se joue en groupe pour les aider dans leur quête. Vous pouvez la voir se retourner en boucle sur le site. Que,
déjà dire que ses fesses jouent très bien.
Le string en chaîne de mailles lui va très bien.
C'est ça.
Et en voilà. Tout cas, très apprécié sur le site.
Bon, la bande-annonce est pleine de futures citations d'anthologie, à mon sens.
De phrases voilà. Cultes.
C'est ça. La perspective d'événements en France aussi, c'est ce qu'on peut commencer à dire pour l'année 2011. Il y aura des venues d'auteurs assez importantes, celle une que tout le monde peut attendre.
Oui, notamment il y aura Robin Hobb qui reviendra en France, parce qu'il en a l'habitude, notamment à Troll et Légendes, Étonnant Voyageur, peut-être aux Imaginales. Brandon Sanderson aussi qui sera là aux Imaginales, les Imaginales qui fêteront leurs 10 ans, justement, les Imaginales d'Épinal.
Ils ont un an de retard.
Voilà, ils ont un an de retard, effectivement, donc une date là aussi à retenir, donc, en général en mai, si je me souviens bien.
Avec un petit espoir pour que cette année, encore une fois, nous y soyons dignement représentés. Ouais. Pas d'autres événements ? C'est déjà pas mal. Si on réussit à aller voir Robin Hobb et Brandon Sanderson à nouveau en 2011, ça sera une bonne chose. Alors, voilà une petite annonce qu'on peut vous faire dès aujourd'hui. Cette année, nous avons réussi à faire un podcast qui vous présente le bilan de 2010 pour les épisodes à venir, parce qu'il y en aura. Nous vous parlerons de l'actualité, nous vous présenterons nos coups de cœur et comme d'habitude, elbakin.net vous aidera à vivre la fantasy au quotidien. Au revoir tout le monde.
Au revoir. Au revoir.